Est-ce qu'à la fin de ton voyage et de mon voyage, nous serons couronnés? Est-ce que nous serons récompensés? La Bible parle même de ceux qui perdront leur récompense. Et l'apôtre Paul, ici, on l'a vu il y a 15 jours, sauf erreur, dira « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Et on a vu que pour bien finir, il fallait combattre le bon combat et ne pas tomber dans des faux combats, et que le bon combat de la foi consistait effectivement à garder une bonne conscience, de vivre en conscience devant Dieu et devant les hommes. Vous vous rappelez de ce message ? Bien. Ce matin, l'apôtre Paul continue et c'est un second défi qu'il faut relever pour pouvoir bien terminer notre course, atteindre la ligne d'arrivée. C'est celui qui consiste à achever la course, à aller au bout de la course de la vie chrétienne. Alors, je ne sais pas si la course de la vie chrétienne est semblable à un sprint, à une course de fond, d'endurance, ou encore une course d'obstacles. Je dirais que c'est peut-être un mélange des trois. La parole de Dieu, on est en début d'année, dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous pouvons tous et toutes avoir bien commencé dans la vie chrétienne. Que l'on soit pasteur, ou chrétien, ou diacre, ou évêque, peu importe. On peut avoir commencé dans la force, dans la joie, dans le service. Mais pour le Seigneur, ce qui compte, ce qui est plus important, ce n'est pas la manière dont on commence, mais c'est surtout la manière dont on finit. Et en réalité, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous finissions avec force. Normalement, un chrétien va de gloire en gloire. L'être extérieur, certes, je vous l'accorde, à part pour moi, mais en règle générale, l'être extérieur se détruit. Mais l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia! En réalité, à la fin de notre vie chrétienne, nous devrions être tous et toutes des Rambo spirituels. Nous devrions être encore plus remplis à la fin qu'au début, plus sensibles à la fin qu'au début, plus forts à la fin qu'au début, plus saints à la fin qu'au début. Que celui qui se sanctifie encore. En réalité, nous devrions être plus patients à la fin qu'au début. Plus généreux à la fin qu'au début. Ben, y en a qu'une qui est d'accord. Plus beau à la fin qu'au début. En réalité, plus beau intérieurement, n'est-ce pas? Quand je regarde des photos de moi, il y a 20 ans de cela, j'étais très beau. Et puis, il semble que les outrages du temps fassent son œuvre, leur œuvre. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui frappe les yeux, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Et quand Dieu viendra me visiter, je veux qu'il trouve en moi un cœur bien disposé et un esprit renouvelé dans sa grâce, dans son amour et dans sa présence. Amen. Alors comment faire pour bien terminer notre course ? Je donnerai trois dynamiques de réponse à cette question. La première, je dirais qu'il faut suivre les traces de ceux qui sont allés jusqu'au bout dans la victoire. L'apôtre Paul, qui est notre modèle, qui va lui-même dire à Timothée, pour moi Timothée, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'ai achevé la course. Je suis allé au bout et il n'y a aucun doute, je serai couronné parce que je suis arrivé à la fin de mon voyage. Je ne suis pas rempli de l'esprit de ce monde, mais je suis rempli de l'esprit de mon Dieu. Je l'ai servi du mieux que je le pouvais. J'ai gardé mon cœur, j'ai gardé ma conscience, ma lumière, et par la grâce de Dieu, je suis arrivé au bout. Comment a-t-il fait l'apôtre Paul ? On va voir tout d'abord qu'il n'a pas considéré sa vie comme étant précieuse. Acte 20, verset 22, nous lisons ceci. L'apôtre Paul dit « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Verset 23, acte 20, 23. « Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » J'aimerais vous épargner cette prophétie ce matin. « Mais je ne fais pour moi-même, dit l'apôtre Paul, aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Allô ? Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je me régale, moi, quand je vois des jeunes serviteurs, bien sûr, prêcher la parole de Dieu, mais surtout des vieux prédicateurs qui ont gardé la foi. Ils sont pleins d'expérience, ils sont pleins de vie. Et je me régale à chaque fois, par exemple, j'écoute notre frère Moïse Arou. Et dans notre conversation, à un moment donné, il me disait, mais ce qui compte toujours dans le ministère, c'est d'avoir la joie du service. Le plus important consiste à ne perdre notre joie tandis que nous servons l'Éternel. Et la clé ici, c'est que Paul n'a pas considéré sa vie comme étant précieuse, littéralement estimée, honorée ou d'un grand prix particulièrement cher. Il considérait sa vie comme étant une vie bon marché. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul avait une mauvaise estime de lui-même. Je crois que Paul avait une bonne estime de soi. Je crois qu'il était bien dans sa peau, il était bien dans ses baskets. Il n'avait pas de complexe d'infériorité. Mais avoir une bonne estime de soi est une chose, avoir une haute estime de soi en est une autre. Avoir une bonne estime de soi nous qualifie pour servir Dieu. Avoir une haute estime de soi nous disqualifie devant Dieu. Quand tu étais petit à tes yeux, ne t'ai-je pas élevé, dira le Seigneur à Saül, pour que tu sois le chef de mon peuple ? Et quand on commence à s'approprier les choses et à penser que nous sommes quelque chose, c'est alors que nous ne sommes plus rien. Et c'est tellement sérieux cette affaire-là, c'est tellement important que personne n'est au-dessus de la loi, je dirais. Personne n'est exempt de cela. C'est tellement important que le Saint-Esprit et le Seigneur veillaient à ce que Paul ne s'enfle pas d'orgueil. Paul n'avait pas une haute estime de lui-même. Il était conscient de ce qu'il était sans Dieu. Rien. Il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu. Il n'y a que des serviteurs de Dieu. Et Dieu a changé son nom. Le Saul de Tarse, le fou furieux, le méchant, est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre petit, le petit Paul. Paul, ça veut dire petit. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui est petit est mignon. Vous voyez, Jean-Baptiste dira à la fin de sa course, acte 13, 25, « Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez. » Ce n'est pas important ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas important qu'on like ta photo ou pas. On s'en fiche de ça. Je dirais, spirituellement, ça craint. C'est pas important ce que les gens pensent de nous. Si je plaisais encore aux hommes, disait Paul, je ne serais pas un serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Et Jean-Baptiste dira, lorsqu'il achevait sa course, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici vient après moi celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers, la courroie de ses souliers. » Alors Paul dira, « Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. » Et il était conduit par le Saint-Esprit et pas par la chair. Deuxièmement, donc il faut suivre les traces de ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Paul, toujours sur ses traces, a exercé sur sa propre vie une autodiscipline. Et ça, c'est important. Parce que si nous ne savons pas nous autodiscipliner, ce sont les autres qui nous disciplineront. Si nous ne savons pas nous juger nous-mêmes, quand nous nous plaçons devant le Seigneur et que nous ne le laissons pas nous corriger par la voix du Saint-Esprit, ce seront les circonstances et les autres qui nous corrigeront. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, il est écrit ceci, et c'est Paul qui il parle à la première personne du singulier. « Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 9, 24, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à le remporter. » 1 Corinthiens 9, 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Et ça, l'abstinence, on n'aime pas. Mais ça nous fait du bien après les fêtes. Pour la santé, ça peut faire du bien. Ça revient à la mode, même dans le monde, le jeûne. Mais ça fait longtemps que Dieu a compris que ça nous faisait du bien. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, on sait pourquoi on court. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit Paul, moi, pour moi, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, verset 27, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté ou disqualifié après avoir fait la leçon aux autres, après avoir prêché aux autres. Et traiter durement signifie rompre la tête dans le grec, si vous voulez du grec. Battre quelqu'un, frapper comme pour causer une meurtrissure et une marque. C'est l'image employée comme un boxeur qui entraîne son corps et le discipline par la privation. Bon début d'année, frères et sœurs. C'est donner à quelqu'un d'intolérable contrariété. Est-ce que vous aimez qu'on vous contrarie? Eh bien, mes amis, si on veut terminer la course, il faut savoir gérer nos contrariétés et nos frustrations. Parce que la chair ne comprend pas le langage de la flatterie. La chair, notre chair doit être maîtrisée. La Bible dit « Ils ont pour Dieu leur ventre ». Excusez-moi, mais notre ventre ne doit pas être celui qui règne sur notre vie. En d'autres mots, ce ne sont pas nos appétits charnels ou les convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme qui doivent remporter la bataille dans notre cœur. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit dominer et régner sur notre cœur. Amen. Et Paul dit donc, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Dans le grec, tenir assujetti signifie emmener en esclavage, déclarer quelqu'un son esclave, faire un esclave, le traiter en esclave, c'est-à-dire sévèrement, être sévère avec soi-même. Sujet à une stricte et ferme discipline, asservir, tenir en bride. C'est tout le programme indispensable à notre vie si nous voulons terminer la course dans la victoire. Quand il est dit dans Hébreux 12, verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. » Courons avec persévérance, le mot persévérance a une origine latine qui signifie être sévère avec soi. Persévérance, être sévère avec sa personne. Et notre problème, des fois, c'est qu'on est light avec nous-mêmes. On peut être dur avec les autres, exigeant avec les autres, mais en ce qui nous concerne, on cajole notre vie et on n'est pas exigeant avec nous-mêmes. Paul dira, « Je traite durement mon corps. » Mes amis, c'est écrit. Et ça s'appelle l'autodiscipline. Ça s'appelle, non pas il n'est pas question ici, bien entendu, de se flageller, de se faire du mal, mais si nous voulons tenir la route et que nous voulons arriver au bout, il nous faut suivre les traces de ceux qui sont parvenus à la fin de la course. Et si Paul est parvenu à la fin de la course, c'est en l'occurrence parce qu'il a su être discipliné. Nous n'aimons pas la discipline. Demain, Dieu voulant, je vais prêcher au pasteur sur la douceur. Vous savez, la vérité, elle doit toujours être dite. Mais quelqu'un a dit, quand tu lances la flèche de la vérité, trempe toujours la pointe dans du miel. Mais elle doit être dite, la vérité. Sinon, on n'aide pas les gens et on ne les aide pas vraiment. Troisièmement, une troisième trace que l'apôtre Paul nous a laissée en matière de course de la vie, dans Philippiens, au chapitre 3, au verset 12. Ça va, vous êtes toujours là ? Paul dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. On se rappelle comment l'apôtre Paul a été saisi par la grâce de Dieu sur le chemin de Damas. Amen. Il ne cherchait pas le Seigneur, comme nous, comme la plupart d'entre nous, et c'est le Seigneur qui a fait le premier pas envers nous. Il dira au verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul, cette autodiscipline, mais encore, il n'a pas compté sa vie comme étant quelque chose de précieux, mais ici nous voyons que Paul a concentré ses énergies, a simplifié sa vie, comment ? En oubliant le passé et en se portant vers ce qui est en avant. Écoutez bien, mes amis, la Bible est pleine de sagesse. Tu ne peux pas entrer dans ton destin si tu n'as pas réglé ton passé. Je répète. Tu ne peux pas entrer dans l'avenir de Dieu pour toi, même si c'est écrit, si ton passé n'est pas réglé. Vous allez dire, mais comment je dois faire pour régler mon passé ? Pour régler ton passé, il faut que tu ailles aux pieds du Seigneur, que tu lui demandes pardon pour tous tes péchés. Que tu te repentes sérieusement, que tu règles s'il y a des choses à régler vis-à-vis d'un tel ou d'un tel, et puis que tu entres dans la vie et dans l'année nouvelle, clean devant le Seigneur. Il n'y a pas de raccourci. Certains d'entre nous, nous faisons du surplace parce que notre passé n'est pas réglé. Parce que, comme on le dit couramment, on traîne encore des casseroles. Et vous voyez, lorsque le diable permet une épreuve dans nos vies, cela, et si notre passé n'est pas réglé, nous amène à faire régulièrement des pèlerinages chroniques sur les lieux de notre passé, parce qu'il n'est pas réglé. Si nous voulons entrer dans notre destinée avec Dieu, il est important que notre passé soit dépassé. J'ai beaucoup travaillé, hein ? Le passé sombre, il faut savoir l'oublier, et le passé même glorieux et positif, il faut savoir l'oublier. Merci Seigneur pour les miracles d'hier. Amen. Mais vous savez que Dieu veut continuer à écrire l'histoire. Merci Seigneur pour les âmes sauvées d'hier et d'avant-hier. Mais Dieu veut sauver encore des hommes et des femmes aujourd'hui et demain. Et nous ne devons pas vivre dans le passé. Nous devons nous libérer du passé, qu'il soit glorieux, qu'il soit misérable, peu importe. Le passé est définitivement passé. Joseph, à un moment donné, dira « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Et pour pouvoir entrer dans notre avenir glorieux, il faut savoir tirer un trait sur le passé. Amen. Alors, si nous voulons terminer la course dans la victoire, il faut marcher, courir sur les traces de ceux qui sont arrivés à la fin. Et Paul en est un exemple. La deuxième dynamique que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'il faut prendre garde aux influences négatives et au levain. Est-ce qu'on peut lire un verset dans la Bible ? Vous savez, je fais exprès de lire la Bible. Je fais exprès, merci Seigneur pour l'écran, mais amenez votre Bible à l'Église, prenez l'habitude d'ouvrir la Bible, de nourrir votre réflexion de la parole de Dieu. Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 6, Galates chapitre 5, verset 6, l'apôtre Paul écrit encore ceci à une église et aux Galates, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. » Voilà, la circoncision, l'incirconcision, c'est quick au niveau, voilà. Vaut mieux faire ça tandis qu'on est bébé, si on le fait. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. C'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous couriez bien. Et là, c'est négatif parce que Paul parle au passé, au sujet de certains chrétiens. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à la fin de la course obligatoirement dans la victoire. Il y a des dangers, des obstacles. Donc vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est-à-dire que vous avez bien commencé, et c'est bien de bien commencer. Mais aujourd'hui, tu en es où? Sur le plan spirituel. Je ne te demande pas si tu as une religion, je te demande si tu as une relation avec Dieu, vivante, dynamique, si tu cours, si tu es toujours en mouvement. C'est lui qui crée le mouvement et l'être, la vie, le mouvement et l'être. Et il dira au verset 8, cette influence, et je dirais que nous sommes tous influençables. Vous savez, des fois sur le carnet de correspondance, il est bien, mais il est influençable par les copains. On est tous influençables. Ève a été influencée par Satan. Adam a été influencé par sa femme. On subit tous des influences. Et le problème de l'influence, c'est que ça nous influence, c'est influent, mais ça a une puissance, mais ça, il y a de la séduction. Le serpent m'a séduite. Et il y a un environnement influent. Et même la religion peut nous influencer. Plus exactement, les religieux peuvent nous influencer. Et on peut, avec le temps, passer de la relation à une série de règlements qui n'a plus rien à voir avec la relation avec Dieu. On est passé avec le temps de la relation avec Dieu qu'on avait au départ à une religion. Ça a été tout le problème de Saül. Il s'est fait un monument. Et Dieu ne nous appelle pas à être des monuments, Dieu nous appelle à être des mouvements. Dieu ne nous appelle pas à être une église monumentale, mais Dieu nous appelle à être une église en mouvement et qui influence et qui bouge pour le royaume. Amen. Mais l'église, ce n'est pas qu'un pasteur qui s'égosille, qui jeûne 20 ou 40 jours ou 100. L'église, c'est toi et c'est moi. Alors si tu ne sais pas encourager ton frère et ta sœur, au moins essaie de ne pas l'ennuyer quand il veut avancer. Un peu de levain, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement que moi. J'ai confiance en cela. Le levain, Jésus a dit ce que c'était, le levain de la religion. Jésus a dit que le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. On peut retrouver ça dans Luc 12, verset 1er. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Et vous savez quoi? La religion nous pousse à l'hypocrisie. En réalité, la religion fait de nous des hypocrites. Je lisais ce matin un psaume, comme je le fais chaque jour, le psaume 52, verset 4. Vous savez, la Bible, des fois, fourbe que tu es. Vous savez qu'elle dit ça, la Bible? Espèce de fourbe que tu es. Hypocrite, disait Jésus. C'est quoi un hypocrite, selon Jésus? C'est quoi? Ils disent Ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas. C'est ça l'hypocrisie. C'est jouer un rôle. C'est être c'est faire du spectacle. C'est ça l'hypocrisie. À ceux qui pensent que nous jouons un rôle, que nous faisons du spectacle sur Internet, je vous dis, vous vous trompez, frères et sœurs. Parce que nous disons ce que nous pensons et nous faisons ce que nous disons. Et Dieu sait ce que nous consommons dans nos cœurs. Seul Dieu le sait. Dieu regarde au cœur. C'est dangereux de se fier aux apparences. Il faut regarder au cœur, comme le Seigneur. Ce n'est pas important la tenue. Vous savez, ce matin, j'ai même eu la tentation, je n'ai pas cédé, de mettre mes belles baskets blanches Asics. Pourquoi ? Parce que je prêchais sur la course et je voulais illustrer. Si j'avais été dans une réunion de jeunesse, je l'aurais fait. Mais pour ne pas choquer peut-être des gens qui regardent un peu trop aux apparences, j'ai dit « mets tes chaussures classiques ». Vous savez, Jacob marchait au pas du troupeau. Il faut savoir se faire, marcher au rythme de ceux qui n'ont pas encore compris ou qui ne sont pas à l'aise comme nous pourrions l'être dans certains domaines. Et brusquer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, parce qu'il y en a, ils sont tellement dans ce principe qu'ils n'avancent pas, ils n'apportent aucun changement. Il faut savoir apporter des changements. Je dirais qu'il faut savoir être courageux parfois pour dire « ça sera comme ça et pas autrement ». Mais avec l'aide de Dieu, on arrive. Le pharisaïsme ou l'hypocrisie doit disparaître du milieu de nous. Il faut être radical. Si ce matin, tu te sens arrêté, tu as conscience que tu n'es plus dans le mouvement de Dieu, on peut être dans des ambiances, mais pas dans l'ambiance de Dieu, tu peux repartir. Nous pouvons toujours repartir. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, dit le Seigneur. Aujourd'hui, pas demain. Quand est-ce que le réveil viendra ? Il y en a, ils vivent dans les illusions. Nous récoltons ce que nous semons. Si tu ne sèmes rien, tu ne vivras rien. Aujourd'hui, commence à prier. Aujourd'hui, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Aujourd'hui, dis « Seigneur, je veux courir de mon mieux dans la carrière de la justice. Je le veux, Seigneur !» Paul dira dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, car le levain, c'est l'hypocrisie, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. » Et là, il y a l'image, bien sûr, de ce qui s'était passé en Égypte lors de la libération du peuple de Dieu. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, il ne fallait pas de levain dans cette nuit de Pâques dans les maisons, non avec un levain de malice et de méchanceté, la malice, la fourberie, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est important la vérité. Si tu ne te tiens pas dans la vérité, si tu ne parles pas selon la vérité, si tu ne vis pas dans la vérité, est-ce que tu suis, est-ce que tu cours encore dans le chemin que Jésus est ? Il est le chemin, la vérité et la vie. Le père du mensonge, c'est le diable. Et nous devons renoncer au mensonge. Nous ne devons pas le tolérer. La duplicité et les comportements doubles doivent disparaître dans nos vies. Parce que le mensonge ouvre une porte à Satan dans nos vies. Judas était un homme double. Il avait un problème avec l'argent et c'est ce qu'il a perdu. Car l'argent, c'est la racine de tous les maux. Attention à couvrir nos péchés. Disons au Seigneur, mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. Nous voulons prospérer, oui ou non ? Alors Seigneur, révèle, révèle dans nos cœurs, révèle au milieu de nous ce qui ne va pas. Parce que si vous voulez vraiment être libre dans votre cœur, dans votre conscience, si vous voulez être des affranchis, il faut accepter la vérité. La vérité vous rendra libre. Amen. Amen, pasteur Yvan. Donc, première dynamique, il faut suivre les traces de ceux qui ont atteint la ligne d'arrivée, en l'occurrence Paul. Deuxièmement, nous avons vu qu'il faut prendre garde aux influences négatives et au levain des pharisiens. Et troisième dynamique, il faut suivre les règles de la course de la vie. On peut lire ça dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. 2 Timothée chapitre 2, verset 5, il est dit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné. L'athlète, le sportif, quelle que soit sa catégorie ou son type de sport, s'il n'a combattu suivant les règles. Dans tous les jeux, même au Monopoly, il y a des règles. Eh oui. Quand on respecte les règles, qu'on se trompe ou qu'on fait un mauvais choix, s'il faut, on retourne à la case départ. C'est la règle. Dans la vie, il y a des règles. Il y a des lois. Il y a des lois physiques, il y a des lois morales, il y a des lois partout. Il y a aussi des règles spirituelles. Il y a un règlement. Il y a des codes. Et d'ailleurs, un règlement qui est là, qui est bon, qui est là pour nous offrir le repos. Jésus disait « Recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes ». Ça, on l'oublie souvent, que ce sont les instructions du Seigneur, les règles du Seigneur qui nous donnent le repos. Certains d'entre nous, on est épuisés du soir au matin et du matin au soir, parce que c'est pas parce qu'on a un emploi du temps hyper chargé, c'est peut-être parce que nous ne respectons pas les règles du Seigneur. Et la désobéissance à Dieu fait que Dieu nous résiste dans la vie. Alors, je me suis dit, ou plutôt le Saint-Esprit m'a dit, c'est quoi la règle des règles ? La Bible parle, vous savez, de la loi royale. Il y a une loi qui est royale. C'est la loi de l'amour. Jacques dit ceci, Jacques 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » En fait, la loi royale, la règle des règles qui détermine toutes les autres instructions, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour pour Dieu, mais la loi de l'amour pour son prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même ? Oh, moi, je m'aime, mais mon prochain... Romains 13, verset 8 dit ceci, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » On peut le mettre à l'écran, c'est important. « Celui qui aime les autres a accompli la loi. » Quand tu aimes, tu as accompli toute la loi. Je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais si David, le roi David, avait aimé Uri le Héthien, premièrement, il ne lui aurait pas piqué sa femme. C'est la moindre des choses, non ? De laisser la femme de celui à qui elle appartient. S'il avait aimé cet homme, j'imagine qu'il n'aurait pas pris la femme de Jonathan. C'était son ami. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas lui faire du mal. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, oulala, ça peut être très subtil. Ça peut être très subtil. Mais on peut, par des petites paroles, des petites attentions qui ne sont pas d'ailleurs. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est là qu'on commence à faire le mal. Et qu'on désobéit à tout le reste de la loi. Parce que ce qui fait qu'on accomplit la loi, c'est de vivre la loi royale qui est la loi de l'amour. C'est finalement le commandement nouveau qui doit toujours être nouveau. Pourquoi ? Parce que tous les jours, mes amis, tous les jours, on doit être renouvelé dans l'amour. Amen. C'est pour ça que Jésus disait, Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Mais attention, il est haut le niveau. « Comme je vous ai aimé. » Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que Jésus a fait à ses disciples? Même à Judas, il lui a lavé les pieds. C'est ça, aimer son prochain. C'est ça, respecter la règle de Dieu. C'est de vivre dans l'amour. Quand tu n'es plus dans l'amour, tu n'es plus en Dieu. Quand tu n'aimes pas ton frère, tu n'es plus dans la vérité. Si David avait aimé Uri, le Héthien n'y aurait pas pris sa femme et il l'aurait encore moins tué et mis à mort. Et finalement, si David avait aimé cet homme vraiment, il ne lui aurait pas fait du mal, mais il ne se serait pas fait du mal à lui-même. Parce que lorsque nous n'aimons pas ou nous n'aimons plus, et je rappelle que l'amour, c'est pas une émotion, l'amour, c'est des actes, l'amour, c'est pas des paroles seulement, l'amour, c'est concret, c'est pratique. Nous ne devons pas aimer en paroles seulement, mais en action et en vérité. Et nous apaiserons nos cœurs devant Dieu, dit l'homme de Dieu. Il ne se serait pas fait du mal à lui-même. Par conséquent, il n'aurait pas composé le psaume 51. En même temps, Dieu change le mal en bien, le psaume 51 nous a fait à nous aussi du bien. Mais il n'aurait pas eu besoin de faire cette prière. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que le péché, conscient ou inconscient, attriste le Saint-Esprit. C'est fait du mal à lui-même. Il était en peine, il était sans vigueur. Et pour lui, ce qui comptait, c'était la présence de Dieu dans sa vie, plus que toute autre chose. Mais il a fait du mal à lui-même, et là c'est une mise en garde pour tous les leaders, même vous les papas. Quand on fait du mal, on fait du mal à Dieu bien sûr, et à notre prochain, mais on se fait du mal à soi et on fait du mal à ceux qui sont autour de nous. Je réalise que David n'a pas forcément eu un problème d'éducation avec ses enfants, mais le malheur est entré dans sa maison à partir du moment où il a désobéi à Dieu. C'est à cause de cela qu'il y a eu de l'inceste. C'est à cause de cela qu'un enfant est mort. C'est à cause de cela qu'il y a eu des luttes fratricides au sein même de sa maison. Ça a été les conséquences de ses inconséquences. Aimer, c'est sérieux. Parce que si nous ne marchons pas dans l'amour, si nous ne marchons plus dans l'amour, c'est contre Dieu que nous sommes. Amenez-moi un pianiste rapidement pour détendre l'atmosphère. Alléluia. Oui, oui. Amen. Il met ses lunettes. On pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu, frères et sœurs. On va préparer ce chant qui dit « La force est pour celui qui se confie en Dieu ». Ésaïe dit au chapitre 40 et au verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Es-tu fatigué de courir? Es-tu arrêté? Es-tu hors-jeu? » Vous savez, quand on est hors-jeu au football, l'arbitre, il siffle. Hop, 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 on arrête tout. Puis si tu te rebelles, il te met un carton. Parce qu'il a l'autorité. Mon ami, ce matin, peut-être il y en a qui doivent se prendre des cartons rouges. Parce qu'ils ne suivent plus la règle numéro une, la loi royale de l'amour de Dieu. La loi royale. Qui vous a arrêté? Je veux marcher, je veux courir, Seigneur, je veux me confier en toi. Ce n'est pas par les efforts, Même si on a parlé, Paul était un homme autodiscipliné, ce n'est pas la discipline seulement qui fait la différence, c'est la grâce de Dieu. C'est la présence de Dieu. Si tu regardes au Seigneur ce matin, tu peux repartir. Tu peux courir dans la vie tout à nouveau. Là, le psalmiste dit « Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. » Certains d'entre nous, on est coincés, on est bloqués à l'intérieur. Ça ne respire pas. Dieu veut élargir ton cœur, quoi. Vous savez, le Seigneur disait au travers de Paul, « Votre cœur s'est rétréci. » Bon, je comprends qu'il y a des moments machines à laver dans la vie. Mais c'est bon. Dieu veut nous rendre heureux. Amen. Dieu te veut heureux. Amen. Dieu te veut bien dans tes baskets. Dieu veut que tu aies une bonne estime de toi, mais pas une haute, par exemple. C'est bon, la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction. Merci, merci Seigneur. On veut commencer l'année en te demandant de nous renouveler dans le Saint-Esprit et en te demandant de nous aider à aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, tu vois peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est hors jeu, il y a peut-être quelqu'un d'arrêté, il y a quelqu'un qui n'est plus discipliné dans sa vie spirituelle. Je te prie, Seigneur, de renouveler par le Saint-Esprit. Et que cette parole ne soit pas simplement une réflexion, mais que cette parole devienne esprit et vie ce matin. Nous voulons être une église en mouvement. Seigneur, délivre-nous des arrêts, des statu quo. Donne-nous d'avancer par ta grâce. Donne-nous de courir dans la vie. Alléluia. Et je dirais en terminant cette pensée, l'important, mes amis, n'est pas d'arriver le premier. Il y en a qui aiment être les premiers. L'important, c'est d'arriver au bout. Et même si tu tombes dans cette course, le Père viendra à toi pour te relever et t'aider à terminer la course. Et on peut acclamer Jésus, le roi des rois. On chante, la force est pour celui.
Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différents